une couaque, une garden, une birbienne, une polar, une belzébuth, une président, présidente, pardon, ça vient de Cuba, une lapine culta, Freudian slip, une trappiste, la Satan, et puis une Samuel Smith, Imperial Stout.
Vacarme. Le renouveau de la bière. Marc Hughes, Véronique Marty. Bonjour à tous. En matière de bière, en Suisse, on a longtemps bu quasi exclusivement de la lager. Une bière claire, fraîche, légère, une bière de soif. Encore très largement majoritaire dans la consommation actuelle. Mais depuis la fin du cartel, qui a duré de 1935 à 1991, on a vu apparaître d'autres types de bières, des blanches, des gueuses, des noires, et tout un tas de bières artisanales, spécialités régionales, brassées dans des petites structures qui ne cessent de pulluler. Et on a commencé à déguster la bière, à en parler avec des mots choisis, comme on le fait d'un vin, à l'associer aux mets les plus fins, bref, à donner des lettres de noblesse à ce breuvage aux variations infinies sur une simple base de malt, de houblon, de levure et d'eau. Il existe même, depuis 4 ans, une formation de sommeliers suisses de la bière et le premier championnat permettant de désigner le meilleur d'entre eux a été organisé en début d'année à Zurich. C'est un sommelier bernois qui l'a remporté et il représentera la Suisse au championnat du monde cet été au Brésil. Rencontre aujourd'hui avec d'autres passionnés de blondes, de brunes, de noires, de rousses et j'en passe. Nous serons tout d'abord au salon Prime Vert de Martigny, salon des tendances printanières. Voici « Quand la bière se savoure », un reportage de Christophe Canu réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Tu veux le plus petit?
Oui, parce que je dois travailler encore.
Ouais. Tu peux,
Bah, santé.
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 Alors d'abord, c'est le premier truc hyper important, c'est faire santé. Ensuite, je vais vous présenter la dégustation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Sarrazin, je suis un amateur et un passionné de bière. Et c'est la première année que Prime Vert organise une dégustation de bière à l'intérieur de l'espace Prime Vin. Et vous êtes les tout premiers à pouvoir en bénéficier. Pour finir de me présenter, je ne travaille ni pour une brasserie, ni pour un importateur, ni pour un magasin. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de déguster des bières artisanales, notamment 7 bières valaisannes, plus 2 bières hors canton. La première bière que vous buvez, c'est une bière blanche, et c'est une bière qui provient de la brasserie de la Cervoise. C'est, je pense, la plus vieille brasserie artisanale encore en fonction actuellement en Valais, et ils brassent 6 bières durant toute l'année. À votre avis, comment définit-on une bière blanche?
Sa couleur.
Par sa couleur.
Sa transparence.
Oui.
Un peu jaunâtre.
Oui. Alors,
c'est... Légèreté.
Tout est juste, mais la vraie définition, une autre définition aussi de la bière blanche, c'est historique et ça vient du langage. Une bière blanche peut être noire et elle pourra s'appeler bière blanche parce que au début, les Allemands faisaient une bière qui était de couleur blanche et qui s'appelait la Weizenbier. Et ces Weizenbier, les francophones l'ont traduit par bière blanche. Weizen, blanc, c'était logique pour eux. Mais plus tard, ils se sont aperçus que Weizen, ça ne voulait pas dire blanc, mais ça voulait dire froment. Et le mot blanc, ça se dit Weizen. Il y a eu une petite erreur de traduction. Et c'est resté dans le monde brassicole. Donc une bière blanche, pour qu'elle s'appelle bière blanche, il ne faut pas qu'elle soit blanche, mais il faut qu'elle ait du froment. Parce que le mot Weizen veut dire froment.
Voilà, tout
faux. Vous n'avez pas tout juste, mais c'était pas tout faux.
C'est pour ça qu'on est là pour apprendre aussi. Hein.
Si... Oui, bon, on peut goûter, bien sûr. C'est une dégustation, si vous ne voulez pas finir vos verres, n'hésitez pas à le rejeter dans le petit truc ici. Est-ce que vous savez comment on fabrique une bière? Parce que ça, c'est important pour la suite de la dégustation.
Avec de la céréale.
céréales.
De l'eau.
Beaucoup d'eau.
De l'eau. Houblon.
Houblon. Et puis il manque un ingrédient, c'est de la levure, c'est juste. Ça, ce sont les quatre ingrédients principaux pour fabriquer une bière, pour brasser une bière. Et si on n'a pas un de ces quatre ingrédients, le liquide, le produit ne pourra pas s'appeler bière.
Christophe, petite question. Tu as combien de bières différentes ici ?
Un peu plus que 500.
D'accord.
Ah bon, c'était environ 120 au début. C'était beaucoup moins. Ouais. Il y a beaucoup plus des choses intéressantes qui sont maintenant développées ici en Suisse aussi. Ouais.
Alors là, on a changé de lieu, on a quitté le salon Primevère de Martigny et on se trouve au Beer Shop, un magasin spécialisé dans la bière à Bienne. Et je me tourne vers vous, Philippe Corba. Si on regarde autour de nous, on voit des quantités astronomiques de bières différentes et j'ai l'impression qu'il y en a du monde entier.
Alors du monde entier, non, il ne faut pas exagérer, mais de beaucoup de pays, oui. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui a changé ces dernières années, c'est-à-dire que dans beaucoup de magasins de bière, ce qui marchait peut-être il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, c'était vraiment de présenter des bières de pays différents, de pays très exotiques. Maintenant, la recherche va plus vers les bières de goût et un peu moins vers les pays exotiques, parce qu'il y a certains pays qui ne présentent pas forcément des bières très très intéressantes. Donc le fait d'avoir une bière d'Angola ou comme ça, c'est peut-être pas l'idée de base, pas ce qui est recherché le plus actuellement.
Oui, au début on jouait uniquement sur l'exotisme, le nom qui sonne bien, pas forcément sur la qualité du produit, c'est ça ?
Oui, exactement. Il y a beaucoup de gens qui essaient de retrouver les bières qu'ils avaient bu en vacances, en allant au Brésil ou ailleurs, et ils les rachetaient ici. Maintenant, il y a beaucoup plus de recherche de goût intéressant.
Je ne sais pas encore lesquels prendre, je regarde, c'est ça le problème.
Il y en a trop ?
Ouais, oui, ça en perd la tête presque. Puis c'est bien de changer quand même un petit peu de bière, de ne pas prendre toujours celle qu'on achète dans les supermarchés, quand même un petit peu... Pour montrer qu'on n'est pas un buveur de bière, n'est pas forcément un anarchiste, quelqu'un qui aime la bière, on aime les bonnes choses, c'est comme les bons vins. Il faut changer de temps en temps, puis aimer les bons goûts, les déguster les bières, c'est pas seulement l'apéro, puis hop, comme de l'eau... On est stéréotypé quand même, le buveur de bière, c'est la personne avec le gros ventre qui ne pense qu'à boire de la bière toute simple, c'est pas du tout ça.
Comment vous en êtes venu, vous, à vouloir goûter d'autres types de bières ?
Avec l'âge. Au début, j'étais vraiment dans la première classe, justement, boire une bière, c'était pour dire que je buvais une bière, et puis voilà, puis après, avec le temps, on a envie de goûter autre chose. À la fin, t'es un petit peu lassé de toujours boire les mêmes bières. Un petit peu la découverte, aller à la découverte du monde de la bière.
Mais en même temps, vous êtes encore tout jeune.
Et les bières, on peut les consommer à partir de 16 ans, donc il y a quand même 7 ans d'expérience, si on peut dire ça comme ça.
Mais qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ?
C'est peut-être depuis que j'ai entendu qu'il y avait ce magasin, justement. Pourtant, je suis biennois depuis... je suis né à Bienne, j'ai toujours vécu à Bienne, je travaille à Bienne, mais... On m'a parlé de ce magasin, quoi. Ouais. Je ne savais pas où regarder tellement qu'il y en avait, puis après, je suis venu une fois... Et puis justement, je prends mon temps parce que je ne les connais pas. C'est ça, donc je fais de la recherche.
Qu'est-ce que vous avez choisi là ?
Alors, une Gordone. Je pense que les puristes vont m'assassiner, mais une Frauk. C'est d'Écosse aussi. Une Quack, une Garden, une Birbienne, une Polar, une Belzébuth, une Président. Presidente, pardon, ça vient de Cuba. Une Lapin Culta, c'était rigolo. Une Einstock, mais c'est pas suisse-allemand, bizarre. Freudian Slip. Deux bières de Bienne, de nouveau. Une Trappiste, la Satan. Et puis une Samuel Smith, Imperial Stout.
Là, on le voit, les pays dominants ici, dans le magasin en tout cas, c'est l'Allemagne. La Belgique.
Oui, alors là, au nombre de bières, en tous les cas, oui. Ça, c'est sûr. Après, il y a aussi pas mal de choses. Il y a beaucoup de choix de bières suisses. De plus en plus de petites brasseries. Je sais que le propriétaire est très intéressé à prendre des petites brasseries suisses. Et actuellement, il est dans une situation idéale, c'est-à-dire qu'il peut vraiment regarder ce qu'il prend, c'est-à-dire qu'il va goûter avant. Il y a tellement de choix qu'il n'y a aucune obligation de tout prendre.
Alors juste un mot, vous êtes Philippe Corba et vous êtes une sommité dans le milieu.
Alors oui, j'ai acquis une certaine réputation grâce à mon blog, donc comme ma page internet où je publie toutes mes notations de bières, toutes les bières que j'ai goûtées depuis 1987. J'en ai actuellement plus de 10 000 différentes. Et ce qui est aussi très apprécié, c'est ma liste de toutes les brasseries suisses, qui est de plus en plus difficile à mettre à jour vu que le nombre explose totalement. Donc je publie toutes les brasseries par canton et je mets mes appréciations personnelles dans le cas où j'ai goûté leur bière.
Il y en a combien de brasseries aujourd'hui en Suisse ?
Alors actuellement, le nombre de brasseries enregistrées est à peu près de 520. Donc on approche du record de 1885 qui était de 530.
Il y en a combien de professionnels ?
Professionnels, c'est assez difficile d'estimer. Je pense entre les 80 et 110 probablement.
Là, ce sont des produits de luxe qui sont présentés ici, ou pas ?
C'est mélangé. Il y a des bières de discount ou il y a des bières de luxe. Mais seulement des bières de luxe, ici à Bienne, on ne pourrait pas survivre.
C'est vrai ?
Ouais, c'est juste. Le marché n'est pas assez élevé que seulement avec les bières de luxe, on pourrait exister.
Philippe Corbin, c'est étonnant parce que la bière, historiquement, c'était considéré comme une boisson de luxe.
Oui, alors jusqu'à son développement, c'était plutôt une boisson de luxe. Donc en Suisse, plutôt un pays viticole. Et avant la deuxième partie du 19e siècle, avant notamment les travaux de Louis Pasteur, les découvertes sur la levure, les effets de la levure, c'était quelque chose qui était très peu maîtrisé. Donc on brassait en hiver, on pouvait pas brasser en été. Et la qualité était assez très différente d'un brassin à l'autre. Quand on avait la chance de tomber sur des bonnes bières, il n'y avait pas énormément de quantité, donc c'était plutôt quelque chose de luxe. Ça s'est popularisé une fois que le vin a eu des problèmes et que les vignes ont été détruites par le phylloxéra, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, où pendant une trentaine d'années, le vin était dans un état vraiment problématique, et c'est là que les brasseries ont pu se développer, donc ont profité de l'absence de vin sur le marché, de la consommation.
Et c'est là qu'on voit l'explosion des microbrasseries.
Exactement, c'est là que le nombre a complètement explosé. C'est parti d'environ 150 en 1850 jusqu'à un pic à 530 en 1885.
Par exemple, comme bière de base, vous avez quoi ?
Comme bière de base, par exemple, comme ici, on voit la Birra Moretti, qui est brassée par la Cupra Heineken en Italie. Ça coûte 1,70 francs la bouteille.
Et puis les bières de luxe alors ?
Par exemple maintenant 3 dames ou bien c'est 4,40 francs et puis 5 francs. La BFM c'est entre 4,60 francs et puis 5,90 francs. La même grandeur de bouteille.
Et puis alors en grand cru, vous avez des grands crus comme il existe dans les vins ?
On a aussi des grands crus, ouais. Qui sont après, ça dépend après les bouteilles, entre... 14 francs et puis 25 francs, ça dépend toujours. On a quoi ? Ici, par exemple, voilà, la Deux Sputes des Flandres, c'est 29.
Ah, une Déousse ?
Ouais, c'est ça, par exemple.
En fait, c'est une bière qui ressemble à une bouteille de vin ?
C'est en manière de production, de manière de champagne.
Vous avez déjà goûté, Philippe Corbin ?
Oui, ben c'est un peu mon job de tout goûter, donc oui, j'ai déjà goûté, oui. J'ai pas trop aimé son goût, mais c'est vrai que la bouteille est très, très jolie, c'est vraiment un produit que vous pouvez par exemple présenter en gastronomie sans aucun problème, donc pourquoi pas.
En fait, ce type de bière, les bières artisanales, correspondent à un marché de niche.
Oui, bien sûr, ça reste un marché de niche, mais il y a une grande marge. On peut voir notamment aux États-Unis, qui est donc un marché pionnier au niveau de la microbrasserie. Il y a certaines villes comme Portland dans l'Oregon où la proportion des microbrasseries atteint 40-45% du marché. Donc bon, c'est gigantesque, mais moi je dis toujours que si en Suisse on peut atteindre 10%, ça serait c'est certainement faisable et ça serait vraiment fantastique.
On en est à combien aujourd'hui de pourcentage du marché ?
Actuellement, d'après les chiffres que j'ai, c'est vers les 3%. Et notamment ce qui est important en tout cas en ce qui me concerne, c'est plutôt un état d'esprit, c'est-à-dire brasser une bière pour le plaisir du consommateur, pour le goût, quand on sent que le responsable des finances a concocté lui-même la recette, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'on commence à économiser sur le houblon, sur le malt, prendre des choses bon marché pour faire le produit le meilleur marché possible, pour avoir après une grande marge dessus. C'est pas intéressant. Donc pour moi, c'est plus un état d'esprit qu'une définition de grandeur.
En même temps, chez Feldschlossen, ils se défendent de ça, par exemple. Ils disent que c'est pas parce qu'ils font partie d'un grand groupe, c'est pas parce qu'ils ont des critères de rentabilité qu'ils choisissent de mauvais houblons ou que leur bière est moins bonne que les autres.
Oui, bon, bah, libre à eux de prétendre ce qu'ils veulent. Ils sont bien obligés actuellement d'essayer de montrer une certaine diversité. Ils sont toujours en train de mettre en avant le fait qu'ils produisent 35 à 40 marques différentes. Ce qui est d'un côté vrai, mais dans la plupart des marques qu'ils ont, si on réduit objectivement au nombre de styles, on arrive peut-être à 5 ou 6 maximum. Donc la plupart sont des bières qui sont brassées à haute densité, qui sont coupées avec de l'eau et qui sont étiquetées. Ça se posait la question si c'est la même bière qui se retrouve sous des étiquettes différentes. C'est une pratique qui se faisait déjà il y a très longtemps. Je me souviens d'avoir visité la défunte brasserie Gurten à Berne, qui avait été reprise par Feldschlossen, et quand ils existaient encore, quand ils produisaient, ceux qui nous faisaient la visite avaient avoué que leur brune, pour la même recette, un jour l'étiquette, c'était Gurten Dunkel dessus, donc brune, et le lendemain, ben, ils mettaient l'étiquette de Feldschlossen. Donc c'est exactement la même recette. Donc après, c'est très difficile de les laisser dire qu'ils ont un amour du produit.
Vous le dites, Philippe Corbin, 1885, 530 brasseries. 35 ans plus tard, donc en 1920, on tombe aux alentours de 90.
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une lutte vraiment acharnée pour pouvoir se développer. Et les plus gros poissons ont mangé les plus petits. On a appelé ça la chasse à l'hectolitre, après coup. Il y a eu des emprunts qui ont été faits par les restaurateurs, donc pour pouvoir démarrer leur restaurant. Et les grands brasseurs, les grands groupes ont fait office de banque, ce que les banques ne faisaient pas. Donc en leur offrant le matériel, en leur offrant l'argent, ce qui lie à les restaurateurs, donc à ces brasseurs.
Oui, donc seuls les plus grands brasseurs avaient les moyens de proposer de l'argent aux restaurateurs.
Exactement, et les plus petits n'ayant pas, ils n'ont pas eu les moyens de se développer, ils ont disparu. Donc énormément de brasseries ont disparu, puisqu'il y en a en tout cas un peu plus de 200 qui ont disparu dans les 20 années entre 1885 et le début du XXe siècle.
C'est pas nouveau alors ce phénomène?
Non, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui continue actuellement et puis ça provoque un certain verrouillage du marché et ça entrave le développement, en tout cas l'accès au marché de certaines microbrasseries.
Alors il y a un autre phénomène qui a peut-être joué, c'est le cartel de la bière.
Oui, alors le cartel qui a été mis en place en 1935 par la Société des Brasseurs, qui se sont regroupés pour faire face au premier abord aux importations et qui ont défini la territorialité, c'est-à-dire les zones de diffusion, quelle brasserie avait le droit de diffuser sa bière dans quelle région. Ils ont aussi défini les styles de bière. Il y en a très peu. C'est des styles qu'on peut retrouver encore maintenant dans les grands brasseurs. Il y a une lager blonde de base, une spéciale, une brune et ce qu'ils ont appelé de manière assez vague une bière forte. Et il était même défini que la bière devait être claire, donc filtrée. Et la raison principale, c'était d'empêcher les bières blanches allemandes, donc les Weizen non filtrées, de se propager sur le territoire suisse.
Ça a participé aussi là à l'uniformisation et à la concentration du secteur.
Bien sûr, le fait de définir des styles de bière aussi étroits, ça a tué toute possibilité de créativité chez les brasseurs. Et le fait aussi de ne plus avoir de concurrence a eu un effet pervers, c'est que le seul moyen de se développer, ça a été de racheter les brasseries, non pas pour avoir les installations, puisque la plupart des installations étaient fermées après coup, après le rachat, mais simplement pour racheter le portefeuille de clients, donc avec tous les restaurants qui allaient avec.
Alors, cette uniformisation, elle n'est pas uniquement helvétique. C'est un constat qu'on peut dresser pour la planète entière.
Alors oui, c'est surtout quelque chose, l'uniformisation du goût au niveau de la bière a eu lieu tout durant le XXe siècle. Et il y avait très peu de styles de bière différentes. Il y a même des anciens styles qui ont simplement disparu. Il n'y avait plus de bière blanche, par exemple. Et les fameuses bières blanches belges avaient disparu. Ça a été réintroduit dans les années 60. Et ainsi de suite pour différents styles. Donc c'était vraiment la lager blonde de masse, totalement interchangeable, donc avec le même goût d'un producteur à l'autre. Et uniquement des grands groupes qui absorbaient les autres.
D'où est venu le changement et quand ?
Alors, on situe le changement du renouveau actuel de la bière comme point de départ. Il y a les États-Unis qui sont donnés, notamment à San Francisco, avec le rachat de la brasserie Encore par une personne qui trouvait leur produit fantastique et qui a appris que la brasserie allait fermer. Donc, il a lancé ses dernières économies là-dedans. Il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas laisser mourir un produit qui sort de l'ordinaire par rapport à la masse de bière qu'on boit tous les jours, qui n'a pas de goût.
C'était en quelle année ?
C'était dans les années 60.
Et on considère ça comme point de départ. Ensuite, dans les années 70, il y a eu d'autres pionniers aux États-Unis qui ont continué. Et il y a eu notamment parallèlement en Angleterre avec l'association de consommateurs CAMRA qui était là pour défendre des méthodes traditionnelles de brassage et notamment pour lutter pour la survie de certains peuples traditionnels. Comme souvent dans ces cas-là, quand un produit est totalement uniformisé, il y a un mouvement de réaction qui arrive. Et bon, c'est certainement pas un hasard que ça arrive dans les années 60-70 avec plusieurs mouvements contestataires à l'époque, le Vietnam, mai 68, et ainsi de suite. Donc il y a eu une certaine réaction face aux choses établies.
Et en ce qui concerne la Suisse, il faut attendre un peu plus longtemps ?
Alors oui, le temps que ça arrive en Suisse, on peut situer ça fin des années 90. C'est là qu'on voit vraiment un départ de plusieurs microbrasseries. On peut citer la BFM en 97, notamment, qui est un grand pionnier. Il y avait un ou deux autres en Suisse romande qui n'ont pas survécu, qui étaient un peu avant, mais plus de manière anecdotique. Et vers la fin des années 90... on est passé d'une trentaine de brasseries en 1991 et on a atteint à peu près les 100 en 2000 pour arriver maintenant à 520.
Julien, je peux te poser une question ?
Oui.
Dans la cuve de fermentation, on va fermenter selon les brasseries une à deux semaines. Et après combien de temps la bière est consommable, enfin qu'on pourrait la boire ?
Ça dépend des brasseries. Souvent, les brasseurs de artisanaux qui sont présents sur ce salon, je leur ai posé quasiment la question à tous. Et c'est en tout cas un bon mois dans la cuve de fermentation. Et ensuite, on va faire la mise en bouteille ou la mise en fût. Et puis ça peut être encore stocké un bon mois dans la bouteille. Donc une bière artisanale peut avoir 3 mois, c'est le maximum pour ce type de bière, 3 mois entre le concassage, donc le jour où le brasseur a décidé de faire sa bière, et le jour où on pourra la déguster. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bière continue à travailler un peu dans la bouteille. Voilà, pour une deuxième bière, je vois que vous la mettez tous au nez. Vous avez tous scruté sa couleur. Au nez, il y a des petits arômes bananes qui ressortent. Je ne sais pas si vous les ressentez. Et puis la couleur, c'est une bière blanche. Vous voyez que la couleur, elle est tout à fait dorée. Elle est beaucoup moins claire que l'autre d'avant.
Elle est, elle est mate. Enfin,
elle est trouble. Voilà. Le côté trouble, c'est souvent le propre des bières blanches. Les bières blanches ont du froment déjà. Le froment, c'est une céréale qui est peu soluble, donc il y a un petit peu plus de peine à se mélanger. Et on va trouver aussi au fond des bouteilles, pour certaines bières blanches, du dépôt. Ça peut être du dépôt de la céréale et ça peut être aussi du dépôt des levures. C'est une bière, on était à Sierre tout à l'heure, c'est une bière qui est brassée à Montana, celle que nous buvons maintenant.
Magnifique. Ouais, très, très bonne bière.
Une petite question, est-ce qu'on peut juger la bière, parce que je n'y connais pas grand-chose, à sa mousse? Parce que là, je vois qu'il y avait une belle mousse. Quand je fais tourner, la mousse, elle reste bien sur le verre. Alors, je ne sais pas s'il y a un critère, ou bien si je suis vraiment... c'est moi qui fabule sur cette mousse.
Alors, on ne peut pas vraiment juger la bière en disant elle est infectée parce qu'il n'y a pas de mousse, ou au contraire, elle est super bonne parce qu'il y a de la mousse. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment de l'ajout de gaz carbonique, de la variété de levure, sauf erreur, qui va produire aussi un peu plus ou un peu moins de mousse. Et il y a des types de bières, comme les...
Et comment c'est servi ? Quelle température la bière est servie ? Est-ce que le verre avant a été nettoyé à froid ou pas ? Est-ce que c'est une bière en bouteille ou sous pression ? Ça, la mousse, elle change tout. Rien que sur un seul fût, si vous mettez le verre bien droit et puis vraiment trop près avec la pression juste physique... Vous allez avoir beaucoup de mousse, tandis que si vous descendez le verre et que la bière, en fait, depuis la tireuse, descend un peu plus lentement, vous aurez tout simplement un peu moins de mousse.
Vous avez été serveuse ?
Non, j'adore la bière, c'est vraiment juste ça.
(0) 58 236 236 0. Comment choisissez-vous votre bière ? Est-ce qu'elle vous ressemble et pourquoi ? Elle est peut-être brassée près de chez vous et c'est pour ça que vous y êtes attaché, ou produite dans une grande brasserie lointaine. Racontez-nous votre bière au 058 236 236 0.
Vacarme, Marc Jules, Véronique Marty, Marie Némon, Stéphanie Coudray, Christophe Canu, Jean-Daniel Mottet.
Et demain, nous irons en boire une ou deux sur une terrasse, au soleil.
J'ai besoin à chaque fois de sentir la bière avant, même si parfois j'arrive pas toujours à mettre un parfum dessus ou à la définir. J'ai vraiment besoin de commencer par le nez, toujours. Et en général, je prends toujours une première gorgée avec la mousse. On a d'abord le côté onctueux, je commence par ça, une première gorgée, j'attends un moment et après je fais la suivante.
Autour d'une chope, c'est pour demain dans Vacarme. D'ici là, je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, Émilie Gasque en passagère sur la première.